Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. C'est le thème du suivi médical à court et à long terme des personnes en cours de transition hormonale ou ayant bénéficié d'une procédure de transition hormonale. Que vous soyez déjà sous traitement hormonal ou en réflexion sur le sujet, ou simplement curieux ou curieuse de comprendre ce qui est en jeu, ce que nous allons vous dire peut vous concerner directement ou bien vous aider à mieux comprendre les besoins des autres membres de la communauté. Tout d'abord, pourquoi le suivi au long terme est-il essentiel pendant et après une transition de genre? La prise d'hormones pour accompagner une transition de genre, qu'il s'agisse de testostérone ou d'œstrogène, a des effets profonds sur le corps. Ces traitements sont généralement sûrs lorsqu'ils sont bien encadrés, mais ils nécessitent un suivi médical régulier car ils modifient beaucoup d'éléments de l'organisme, et notamment le système hormonal, les fonctions métaboliques, et notamment les équilibres des différentes substances présentes dans le sang et les tissus vivants, la santé cardiovasculaire, la densité osseuse, et enfin, ils peuvent aussi avoir un impact sur la santé mentale. L'objectif d'un suivi médical régulier n'est pas de surveiller ni de contrôler les identités. Le but d'un tel suivi est de réussir à préserver la santé tout au long de la vie, en adaptant les soins à chaque personne et à chaque situation particulière à différents moments de la transition. Quels bilans médicaux sont recommandés lors d'une transition de genre? Le suivi médical lors d'une transition de genre varie un peu selon les équipes et les situations locales, mais en voici les grandes lignes. Tout d'abord, pour les personnes transféminines, c'est-à-dire ayant recours aux œstrogènes, il est nécessaire de réaliser un bilan biologique tous les 3 à 6 mois la première année, puis un bilan annuel par la suite. Ce bilan doit comporter, premièrement, le dosage des œstrogènes et de la testostérone. Deuxièmement, un bilan hépatique, c'est-à-dire un bilan du fonctionnement du foie. En effet, cet organe est l'usine chimique dans laquelle sont fabriquées l'essentiel des substances qui circulent dans notre corps, et notamment le cholestérol, qui est le précurseur des hormones sexuelles, comme la testostérone, les œstrogènes et la progestérone. Troisièmement, une étude du profil lipidique, c'est-à-dire du taux des différentes graisses présentes dans le sang, et notamment une mesure du taux de cholestérol et de ses différentes fractions, ce qu'on appelle le HDL et le LDL, ainsi que des triglycérides, car ces différents éléments sont essentiels pour une bonne évaluation du risque cardiaque et vasculaire. Quatrièmement, un suivi de la fonction rénale, car la majorité des substances que nous ingérons, soit par la bouche, soit par injection, doivent être éliminées par les reins. Cinquièmement, un bilan de la coagulation sanguine, surtout en cas d'antécédents personnels ou familiaux, de formation de caillots dans les artères ou dans les veines, car les hormones sont susceptibles de déstabiliser l'équilibre fragile des processus de la coagulation intravasculaire. Sixièmement, un suivi de la pression artérielle et du poids, car ces deux éléments sont sensibles aux effets des hormones et leur maîtrise est essentielle pour préserver le capital de la santé. Septièmement, une mesure de la solidité des os par la densitométrie osseuse, encore appelée ostéodensitométrie. Celle-ci est recommandée après quelques années, surtout en cas d'arrêt des hormones. Maintenant, pour les personnes transmasculines, c'est-à-dire placées sous testostérone, le bilan biologique doit comporter, premièrement, un dosage de la testostérone totale et de la testostérone libre tous les 3 à 6 mois, puis tous les ans. Deuxièmement, une mesure de l'hématocrite et du taux d'hémoglobine, c'est-à-dire du nombre des globules rouges dans le sang, car la testostérone peut entraîner une augmentation des globules rouges, ce qui, à terme, peut avoir des effets secondaires sur la santé. Pour cela, on peut penser aux accidents, parfois graves, qui sont advenus chez les sportifs ayant utilisé ces hormones pour augmenter leur masse musculaire et améliorer leur performance physique. Troisièmement, une étude du profil lipidique, car le taux de cholestérol peut se modifier de façon défavorable, c'est-à-dire avec une élévation du taux de mauvais cholestérol, c'est-à-dire de la fraction LDL du cholestérol. Quatrièmement, un suivi du fonctionnement hépatique et du taux de sucre dans le sang, appelé mesure de la glycémie, notamment en cas de pathologie associée ou de traitement autre. Cinquièmement, une surveillance gynécologique adaptée pour les personnes ayant gardé un utérus ou des ovaires. Et la santé mentale dans tout ça? La transition hormonale, qu'elle soit médicale, sociale ou les deux, est un parcours intime et souvent libérateur. Mais elle peut aussi être traversée par des moments de vulnérabilité psychologique. Des études montrent une amélioration globale de la santé mentale après le début des hormones, avec une diminution des pensées suicidaires, de l'anxiété et des perturbations de l'humeur. Mais il peut aussi y avoir des effets secondaires émotionnels temporaires. Irritabilité, fatigue, anxiété, surtout au début du traitement. Un accompagnement psychologique non normatif et respectueux des identités peut être utile. Il n'est pas obligatoire, mais il peut être bénéfique pour bien vivre sa transition. Quels sont les risques cardiovasculaires à surveiller? Les traitements hormonaux ont un léger impact sur le cœur et les vaisseaux, mais souvent, ce sont les facteurs associés qui posent problème. Le tabac, la sédentarité, l'excès de poids ou une alimentation déséquilibrée sont des éléments qui majorent les risques d'apparition de maladies cardiaques ou vasculaires. Les œstrogènes, surtout s'ils sont pris par voie orale, peuvent augmenter le risque de formation de caillots dans les veines. C'est ce qu'on appelle une phlébite. C'est pourquoi la voie transdermique avec des patchs ou des gels est souvent privilégiée. Chez les personnes sous testostérone, on observe parfois une augmentation du mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Cela justifie un suivi régulier pour prévenir la survenue de complications telles que l'infarctus du myocarde, surtout en cas d'association avec l'hypertension artérielle ou le diabète. Bref, le risque est faible si le suivi est bon et si les facteurs de risque sont bien gérés. Et les os ? Parlons densité osseuse. Le squelette est très sensible aux hormones sexuelles. Une baisse prolongée de testostérone ou d'œstrogène peut entraîner une perte osseuse et augmenter le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire de décalcification et de fragilité osseuse à long terme. C'est pourquoi l'arrêt brutal du traitement hormonal est déconseillé sans un suivi médical associé. En cas d'arrêt volontaire ou non, un médecin peut proposer une évaluation de la densité osseuse. Enfin, une activité physique régulière, notamment avec impact, tels que le jogging, la marche rapide, la danse, etc., une alimentation riche en calcium et en vitamine D, sont vos meilleurs alliés. En conclusion, une santé sur mesure. La transition est un droit et le suivi médical est un allié. Il ne s'agit pas de faire intervenir de façon inopportune ou inadéquate et de pathologiser les identités trans ou non-binaires. Mais la médecine peut proposer un accompagnement respectueux, individualisé et éclairé. Le plus important est de trouver une équipe de soins formée, non jugeante et à l'écoute de vos besoins. Votre corps mérite des soins à sa mesure et vous méritez d'être accompagné dans le respect de qui vous êtes. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode et à prendre soin de vous aujourd'hui, demain et pour longtemps. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queer As You pour un prochain épisode de C'est ta santé.